Culture. Carnet de santé. Marina Carrère d'Encausses.
Ils représentent environ le quart des cancers en France et sont responsables chaque année de 40 000 morts. On parle des cancers digestifs et avant tout de ceux du côlon et du rectum, fréquents puisque c'est le troisième cancer chez l'homme après ceux de la prostate et du poumon. C'est même le deuxième chez la femme derrière le cancer du sein. Bonne nouvelle, ils se dépistent bien grâce à un examen pris en charge par l'assurance maladie. Mais encore trop peu d'entre nous le font. On tentera de comprendre pourquoi. On parlera également bien sûr des signes qui doivent alerter, des traitements possibles et de la prévention parce qu'on connaît de nombreux facteurs de risque de cette maladie. Et puis il sera question également du cancer du pancréas, un cancer dont la fréquence ne cesse d'augmenter à un point tel qu'il pourrait constituer la seconde cause de mortalité par cancer dès 2030. Il faut dire que ce cancer est souvent retrouvé très tard et que peu de traitements sont efficaces sur lui. Mais pourquoi cette augmentation de fréquence, notamment chez les personnes jeunes? Comment retrouver au plus tôt ce cancer et où va la recherche? Nous répondrons à toutes ces questions avec le professeur Cindy Neuzillet. Cindy Neuzillet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur en hépato-gastro-entérologie et oncologue digestif à l'hôpital Paul Brousse à Villejuif, près de Paris. Coordinatrice des recommandations sur la nutrition et l'activité physique adaptée pour le Thésaurus national de cancérologie digestive. C'est un peu compliqué, mais en l'occurrence, la nutrition et l'activité physique ont beaucoup à faire là-dedans. On va y revenir. Alors, je disais à l'introduction qu'on allait s'intéresser avant tout au cancer du côlon, du rectum, qui sont les plus fréquents, et à celui du pancréas, le plus grave, et qui aujourd'hui, honnêtement, inquiète beaucoup, notamment du fait de sa fréquence qui ne cesse d'augmenter. Mais pour être complet, tous les organes de l'appareil digestif peuvent être touchés par un cancer, en fait.
Tout à fait. Dans les cancers digestifs, ça comprend toutes les tumeurs qui peuvent se développer à partir du revêtement du tube digestif, donc depuis l'œsophage, en passant par l'estomac, l'intestin grêle, le côlon, le rectum, jusqu'à l'anus. Et également donc, les différentes glandes de l'appareil digestif, donc le foie avec les voies biliaires qui y sont associées, et puis le pancréas.
Alors on va rester pour l'instant sur le cancer colorectal, donc du côlon et du rectum. Qui sont les personnes les plus touchées? Ça concerne qui avant tout?
Alors le facteur de risque principal pour le cancer colorectal, en dehors des situations où on a une prédisposition d'un risque génétique ou d'une maladie inflammatoire chronique de l'intestin, en dehors de cette situation-là, le risque principal, c'est l'âge. Donc raison pour laquelle le dépistage commence à partir de l'âge de 50 ans. Mais on a donc également un certain nombre de facteurs de mode de vie, donc qui sont les fameux facteurs modifiables qui peuvent permettre de réduire le risque de ce type de cancer et donc sur lesquels on peut agir.
Et c'est autant les hommes que les femmes?
C'est autant les hommes que les femmes, 55% d'hommes, 45% de femmes. Donc on n'a pas, voilà, on n'est pas plus concerné que l'on soit un homme ou une femme, ça concerne tout le monde.
On parlera bien sûr des dépistages, mais si on ne s'est pas fait dépister, est-ce qu'il y a des signes qui doivent alerter, qui peuvent faire évoquer un cancer du côlon?
Alors oui, alors l'intérêt du dépistage, c'est que les signes de la maladie, ils apparaissent lorsqu'elle est déjà à un stade un peu avancé. Donc c'est la raison pour laquelle ce test a vraiment un intérêt. Mais sinon, les symptômes qui doivent être des signes d'alerte, c'est si on observe du sang dans les selles. Une cause fréquente, c'est les hémorroïdes, mais il ne faut pas s'arrêter là, en fait, finalement, puisque lorsque l'on a des hémorroïdes, on peut avoir, malgré tout, une tumeur au-dessus. Et donc, il ne faut pas se dire, c'est juste les hémorroïdes, il faut savoir aller plus loin. Après, il y a les modifications du transit. Alors, en sachant qu'il peut arriver qu'on soit constipé de façon chronique ou d'avoir de la diarrhée de façon chronique, ça fait partie de ce qu'on appelle les troubles fonctionnels intestinaux. C'est extrêmement fréquent dans la population. Donc, il ne faut pas s'inquiéter si on est constipé depuis 30 ans. En revanche, si on a un changement de son rythme des selles, si on était constipé, qu'on a de la diarrhée qui apparaît ou l'inverse, ou qu'on a une alternance diarrhée-constipation et que ça persiste plusieurs semaines, ça doit interpeller au même titre que les douleurs abdominales inhabituelles. Parce que de la même manière, peut avoir des douleurs chroniques. Il ne faut pas s'affoler si on a des douleurs spasmodiques depuis 20 ans. C'est plus vraisemblablement un trouble fonctionnel intestinal. Mais si on a des douleurs qui apparaissent, qui sont persistantes, qui ne sont pas bien soulagées par les médicaments pour la douleur, c'est un signe d'alerte. Les autres symptômes type amaigrissement, fatigue,
c'est assez
sont plutôt tardifs. Voilà, donc c'est pour ça qu'on veut arriver avant ces symptômes-là.
Vous l'avez dit, quand on a des saignements, on pense facilement à des hémorroïdes et puis on se dit c'est mieux ça qu'un cancer, donc on ne va pas les consulter. Si, il faut consulter. On consulte qui? Son médecin traitant?
Alors, on consulte, ça peut être son médecin traitant en première intention, mais en fait, il faut surtout avoir un examen clinique de la marge anale et ça, les médecins traitants ne le font pas systématiquement. Et donc, même, on disait, même si le médecin traitant trouve qu'il y a des hémorroïdes, il ne faut pas s'arrêter là. Comme on dit, un train peut en cacher un autre. C'est ce qu'on disait. Il peut y avoir autre chose au-dessus. Et donc, il est prudent d'aller consulter un hépato-gastro-entérologue pour discuter de la réalisation d'une endoscopie digestive dans ce cas-là.
Aujourd'hui, le diagnostic du cancer colorectal, comment se fait-il et qu'est-ce qu'on propose comme traitement aujourd'hui ?
Alors, pour faire le diagnostic du cancer, il faut avoir un prélèvement. Donc, quand la tumeur est localisée dans le côlon, la méthode pour obtenir un prélèvement, c'est d'aller faire une coloscopie. Donc, examen où on met une caméra en passant par l'anus pour aller explorer le côlon après avoir pris une préparation qui permet de bien nettoyer les parois du côlon. Donc, c'est les biopsies qui sont réalisées au cours de cette coloscopie qui permettent de faire la preuve du cancer. Et c'est pour ça qu'on a besoin de cet examen pour poser le diagnostic.
Et quand le cancer donc est installé, la première chose, c'est la chirurgie.
Alors voilà, le traitement ensuite, il dépend de l'extension de la maladie. Donc une fois qu'on a posé le diagnostic de cancer colorectal, on réalise un scanner du thorax, de l'abdomen, du pelvis pour savoir si la maladie est uniquement localisée au niveau du côlon ou si elle s'est étendue ailleurs. Si elle ne s'est pas étendue ailleurs, le traitement de première intention, c'est d'aller faire en effet la chirurgie donc du côlon qui va retirer la partie du côlon où se trouve la tumeur.
Quand on parle chirurgie du côlon, on pense toujours pose de poche. C'est quelque chose qui est rare aujourd'hui ou qui parfois est simplement éphémère, transitoire, le temps de la cicatrisation ?
Alors pour les cancers du côlon en lui-même, c'est rare. C'est plus quand il y a une complication initiale, une occlusion, une perforation que les chirurgiens ont recours à devoir mettre une stomie. Pour les cancers du rectum, comme en fait c'est situé plus bas sur le conduit digestif et qu'on est amené à faire des sutures qui sont assez fragiles, pour les tumeurs les plus bas situées, il y a des stomies temporaires qui sont mises en place pendant 6 semaines ou un peu plus,
le temps de cicatriser.
Voilà, et ensuite la continuité, comme l'on dit, est rétablie, c'est-à-dire que la poche est retirée.
Et en complément, donc quand ça s'est étendu, c'est comme pour le reste, chimiothérapie, radiothérapie.
Alors, lorsque la maladie s'est étendue à distance, quand on est dans le cas d'un cancer du côlon comme du rectum, les molécules qu'on utilise sont globalement les mêmes. Il y a donc la chimiothérapie qui reste le socle, en fait, de ces traitements, auxquels on peut être amené à rajouter des thérapies ciblées ou des médicaments qui ciblent les vaisseaux. Et il y a le cas particulier des tumeurs qui se développent dans le cadre d'une instabilité génétique pour lesquelles, en fait, le traitement de première intention est l'immunothérapie et non pas la chimiothérapie. On a eu beaucoup de progrès sur les 10 dernières années dans la meilleure compréhension de ces cancers.
Donc ça, c'est un peu les nouveautés. Les nouveautés, c'est aussi d'essayer de trouver les traitements qui vont être les moins agressifs possibles, de faire un peu quand même pour chaque patient.
C'est ça, c'est-à-dire qu'on va dire qu'au stade avancé, on est plus dans le démembrement moléculaire et de mieux faire des traitements plus personnalisés. Et dans les stades précoces, on est dans l'idée de limiter les séquelles. Alors ça fait déjà quelques années maintenant, par exemple, que la durée de la chimiothérapie que l'on donne après la chirurgie, si les ganglions sont envahis, donc le principe c'est qu'on retire la tumeur et les ganglions qui drainent la tumeur, s'ils ne sont pas envahis, plus souvent, il n'y a pas de chimiothérapie complémentaire. D'accord. S'ils sont envahis, il y a besoin de faire une chimiothérapie complémentaire. Avant, cette chimiothérapie, elle durait 6 mois pour tous les patients. Or, il y a un produit que l'on met qui peut donner de la neuropathie, ce qu'on appelle donc laisser des séquelles en termes de sensibilité. Et maintenant, ce traitement a été réduit à 3 mois quand on a des tumeurs qui sont moins évoluées que d'autres. Donc, on peut un peu personnaliser la durée. Donc ça, c'est pour les cancers du côlon. Et pour ceux du rectum, on sait que la chirurgie et la radiothérapie qui est utilisée spécifiquement pour les cancers du rectum, pas pour les cancers du côlon, peut laisser des séquelles, notamment urinaires, sexuelles et de continence. Et donc, il y a des stratégies qui
se discutent. On y pense avant, quoi.
Exactement. Et de se dire, est-ce qu'on ne peut pas, s'il y a une très bonne réponse à la chimiothérapie, se passer de la chirurgie ou de la radiothérapie ? Mais donc, c'est discuté dans le cadre d'équipes expertes ou d'essais cliniques.
Alors, chaque année, ce sont quand même 17 000 vies qui sont emportées par le cancer colorectal dans notre pays. Aujourd'hui, on sait éviter ce cancer ou au moins le retrouver à un stade initial où il guérit dans 90% des cas. Et pour ça, depuis 2009, il y a un programme de dépistage organisé qui est proposé par les pouvoirs publics qui s'adresse aux femmes et aux hommes de 50 à 74 ans à faire chez soi. Pouvez-nous rappeler de quoi il s'agit ?
Alors, tout à fait. Alors, c'est ce qu'on appelle le test immunologique fécal. Donc, le principe, on le disait, c'est quand il y a un petit polype ou un gros polype ou un cancer qui se développe dans le côlon.
Alors, les polypes, c'est les lésions non cancéreuses, mais qui peuvent évoluer en cancer.
Exactement. Ce sont les stades pré-cancéreux. Finalement, on sait que la très vaste majorité des cancers du côlon se développent précédemment sur un polype. Voilà. Et ces polypes, comme en fait, c'est une sorte de bourgeonnement sur la muqueuse, ça fait des petites effractions à la surface et il y a des globules rouges qui peuvent se retrouver dans le tube. tube digestif et dans les selles.
Mais qu'on ne voit pas forcément.
Exactement, parce que c'est un micro-saignement qu'on ne voit pas à l'œil nu. On n'est pas là à parler des saignements des hémorroïdes, justement, qui se voient à l'œil nu. Et donc, le principe de ce test, c'est qu'il va détecter, en fait, la présence de sang dans les selles à un moment, comme on disait, où il n'y a pas de symptômes occasionnés par le polype ou par la tumeur. Donc, il faut savoir que quand on le fait, dans 96% des cas, il est négatif.
D'accord.
Donc si on fait le test...
on peut être rassuré déjà.
Voilà. Et ensuite, dans le cas où il est positif...
On fait quoi dans ce cas-là?
Eh bien, il faut aller faire la coloscopie pour savoir qu'est-ce qui est à l'origine, finalement, de ce test positif.
Et encore une fois, ça peut être une tumeur bénigne qu'on va retrouver.
Exactement. Dans la majorité des cas, il n'y a pas de cancer ni de polype. Mmh. Dans à peu près 3-4 cas sur 10, on trouve un polype, en fait... plus ou moins avancé. Et c'est seulement dans un cas sur 10 que l'on trouve un cancer à partir d'un test positif.
Et un polype, si on le trouve, qu'on enlève pendant la coloscopie, et qui annule ce risque de cancer sur ce polype.
Exactement, puisqu'en fait, on a retiré finalement la lésion précancéreuse avant qu'elle ne se transforme en cancer. Et c'est justement tout l'intérêt de la coloscopie, c'est que c'est non seulement un examen diagnostique, mais qui permet en même temps de faire la thérapeutique quand on est sur des lésions superficielles, comme c'est le cas.
Alors, on comprend, c'est un test simple qui est pris en charge tous les 2 ans par l'assurance maladie. Vous pouvez le récupérer chez votre pharmacien, auprès d'une infirmière, ou le commander en ligne sur le site de l'assurance maladie pour le recevoir à domicile. 70% de la population ne le fait pas. Pourquoi ? Avant que vous ne répondiez, je voudrais qu'on écoute Florence qui témoigne au micro d'ici.
En 2022, j'avais aucun symptôme et il est venu en janvier de faire mon test colorectal et je l'ai fait et on m'a testé du sang alors que j'avais aucun symptôme, pas de sang dans mes selles, je voyais rien moi. Et j'avais un adénocarcinome du côlon droit. J'ai été vite opérée parce que c'était un cancer qui était au début et c'est ce qui m'a sauvée.
Voilà, quand on entend ce témoignage, on a un peu de mal à comprendre que si peu de personnes, donc 30%, adhèrent à ce dépistage. Comment on l'explique ?
Alors, on sait.
C'est un peu tabou, région du corps.
On sait que déjà le principe du dépistage en soi peut faire peur, alors qu'on devrait se réjouir pouvoir être pris en charge précocement. Mais même quand on regarde pour le dépistage du cancer du sein.
On est très en dessous d'autres pays.
Exactement, on est autour de 60% seulement des femmes qui le font, alors que là, il n'y a pas de question de tabou, de selle à toucher. Donc, c'est vrai que pour le côté du dépistage du cancer colorectal, il s'agit de poser un écouvillon sur une selle. Juste une fois. C'est vrai que je pense qu'il faut pouvoir bien expliquer le déroulement de ce test de dépistage, parce que souvent, les personnes qui en ont le plus peur ne savent pas exactement comment ça se passe et croient justement que c'est quelque chose qui va impliquer d'aller chercher des selles à l'intérieur, alors qu'en fait, non, c'est un recueil. Et on fait simplement passer l'écouvillon dessus, on le remet dans son flacon et on envoie par la poste. Donc, ça reste quand même quelque chose qui est très simple. Il faut savoir aussi qu'il y a un certain pourcentage qui se rajoute à ces 30% de personnes qui font le dépistage, qui sont ceux qui font directement la coloscopie et qui représentent, du coup, quand on met tout mis bout à bout, ça fait à peu près 40 à 45% de la population qui fait l'objet d'un dépistage par une modalité ou une autre, mais ça reste insuffisant pour avoir le maximum de bénéfices en termes de réduction de la mortalité.
Qu'est-ce qu'on peut dire aux gens pour les convaincre d'adhérer à ce dépistage ?
Eh bien que, en fait, la peur n'évite pas le danger et que c'est pas en faisant l'autruche que l'on va, pouvoir se traiter contre un cancer qui est en développement, qu'on a une chance exceptionnelle pour ce cancer d'avoir une stratégie de dépistage, alors que, comme on va le voir pour le cancer du pancréas, par exemple, on n'a pas cette chance d'avoir un dépistage organisé qui soit possible et qu'en fait, d'être pris en charge tôt, ça peut permettre, comme dans le cas de votre témoignage, finalement, de sauver la vie et surtout d'avoir des traitements aussi qui soit moins lourd, puisque un cancer pris en charge précocement peut se traiter, par exemple, uniquement par de la chirurgie, sans avoir besoin de chimiothérapie, et puis mieux encore, éviter d'avoir une maladie à un stade avancé qui serait plus complexe à traiter.
Vous avez évoqué la surveillance par coloscopie d'emblée. Ça, c'est ce qui est proposé aux personnes à risque élevé de développer un tel cancer, et notamment à celles qui ont un risque génétique.
Tout à fait. Du coup, on distingue la population à risque moyen, qui est celle du dépistage, donc qui a plus de 50 ans, et qui n'a pas d'antécédent personnel ou familial de cancer digestif.
Et ça veut dire quoi, antécédent personnel ou familial ? Parce que familial, vu la fréquence de ce cancer, avoir un grand-père qui a eu un cancer du côlon à 80 ans, c'est un facteur de risque ?
Alors maintenant, on considère tous les apparentés concernés. C'est vrai que le risque est davantage augmenté pour les personnes qui ont un apparenté au premier degré. Donc c'est ça qui est considéré en premier lieu. Un apparenté au premier degré qui a eu des polypes ou un cancer, a fortiori donc un cancer du côlon, est considéré comme un facteur qui augmente le risque et qui justifie de faire la coloscopie d'emblée. Donc c'est pour ça que dans le questionnaire que vous recevez avec le test immunologique fécal à la maison, on vous interroge sur votre histoire familiale de cancer digestif. C'est également le cas donc s'il y a a fortiori un syndrome génétique identifié, parce qu'il y a des prédispositions génétiques au cancer du côlon, notamment ce qu'on appelle le syndrome de Lynch. Et il y a également la situation des patients qui sont suivis pour des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin.
La maladie de Crohn.
Exactement, la maladie de Crohn, la rectocolite hémorragique, qui sont à distinguer des troubles fonctionnels intestinaux, bien qui sûr. Ne sont pas des maladies inflammatoires, et pour lesquelles, du coup, ces patients-là sont déjà habituellement dans des circuits avec un gastro-entérologue qui pourra adapter la fréquence de la réalisation de la coloscopie. Un point important à signaler, c'est que si on a déjà des symptômes, donc par exemple si on a du sang dans les selles, on sort du dépistage organisé aussi, puisque de fait, d'accord, le test il va être positif bien si sûr. Vous voyez déjà du sang dans les selles, et donc là il faut aller directement à la coloscopie.
Mais si vous préférez, parce que vous n'avez pas envie de faire ce test à la maison, faire un dépistage, si vous avez les moyens, hein, parce que c'est pour le coup le test à faire à la maison est pris en charge, faire une coloscopie tous les 3 ou 5 ans, c'est aussi bien ou pas, ça pose un problème quand même?
Alors, en termes d'efficacité pour détecter des polypes ou un cancer, c'est tout à fait satisfaisant. Après, il y a une question de modèle de santé publique finalement, c'est-à-dire que la France a bâti son modèle de dépistage sur le test immunologique fécal. Il y a d'autres pays qui font par exemple des coloscopies courtes ou des modèles où ils ont pu comparer la coloscopie totale au test immunologique fécal. Il y a une problématique de coût, c'est-à-dire que de faire une coloscopie, ça coûte plus cher et a un risque, même s'il reste très minime, associé à la coloscopie, de risque de perforation, de saignement notamment.
Il y a un risque évidemment à faire le test immunologique.
Exactement.
On a parlé donc du risque génétique. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme facteur de risque de ce cancer?
Alors, ce sont les fameux facteurs modifiables dont on parlait précédemment, et c'est vrai qu'ils rentrent maintenant en ligne de compte dans les questionnements pour avancer l'âge du dépistage, par exemple, lorsqu'on a quelqu'un qui n'a pas de prédisposition familiale mais qui est exposé à ces facteurs, d'aller se dire, on pourrait le commencer plus tôt. Donc ces facteurs, ça comprend la consommation de tabac, on n'y pense pas forcément, mais ça en fait partie. L'alcool également est un facteur de risque de cancer colorectal. Il y a des facteurs qui sont liés à l'alimentation, avec la consommation excessive de viande rouge et de charcuterie. La viande rouge, parce que c'est le fer qui est contenu dans les globules rouges de la viande rouge, qui en fait va venir oxyder un peu schématiquement l'ADN des cellules de la surface du côlon. La charcuterie, c'est en raison des nitrites qui sont utilisés dans leur conservation et qu'on trouve aussi dans les produits transformés. Donc on rejoint aussi dans ces logiques-là. Et de la même manière, les nitrites sont toxiques pour les cellules et finissent par les abîmer.
La cuisson au barbecue très régulière, c'est pareil, ça joue?
Ça aggrave finalement l'effet, c'est-à-dire qu'on sait que le noir que l'on génère quand on grille la viande, eh bien en fait, va majorer cet effet de stress sur la muqueuse. À l'inverse, la consommation de fruits et légumes par leur effet antioxydant, le fait également de manger des fibres parce que ça accélère le temps de transit finalement et ça diminue l'exposition de la muqueuse à ces toxiques. Et la pratique d'activité physique sont aussi donc des facteurs qui eux sont protecteurs contre le risque de cancer colorectal.
On sait que l'obésité est un facteur de risque.
Tout à
fait. Par quel biais ?
Alors, le surpoids et l'obésité sont associés au fait d'avoir un excès de graisse abdominale et la graisse abdominale agit comme un perturbateur endocrinien en fait. Ça génère la sécrétion de substances inflammatoires et de facteurs de croissance pour les cellules tumorales. Et donc c'est pour ça que l'obésité et le surpoids sont associés à un surrisque de cancer et que les différentes interventions qui peuvent faire perdre du poids, donc ça a été démontré il y a déjà plusieurs années pour la chirurgie bariatrique. Aussi maintenant il y a des premières données qui commencent à sortir sur les molécules comme les analogues du GLP-1 qui font perdre du poids. Bah, en réduisant cette graisse viscérale, diminue le risque de mortalité à la fois cardiovasculaire mais aussi par cancer.
Alors vous avez évoqué l'activité physique, c'est important, donc c'est utile en prévention, mais c'est utile, il y a des études très claires qui le montrent, au décours de la prise en charge d'un cancer du côlon, et notamment après une chirurgie du côlon.
Alors, tout à fait, il y a eu l'année dernière la publication dans le New England Journal of Medicine, donc une des revues les plus prestigieuses, d'une étude menée par nos collègues canadiens, qui était une étude internationale qui a inclus près de 1000 patients qui avaient été pris en charge pour un cancer colorectal, et dans laquelle ils ont comparé, par tirage au sort, soit les conseils habituels qu'on donne à nos patients après un cancer, c'est-à-dire de bouger davantage, soit une prise en charge extrêmement structurée avec un enseignant en activité physique adaptée qui voyait les patients au départ tous les 15 jours, puis ensuite de façon mensuelle, pour faire un suivi personnalisé qui visait vraiment à augmenter leur niveau d'activité physique par rapport à précédemment. Cette étude, elle a vraiment été un stimulus pour la, communauté parce qu'elle a montré que le groupe qui pratiquait de l'activité physique intensive avait une réduction de son risque de mortalité de près de 40% et de récidive de cancer colorectal de près de 30%. Donc en fait, des résultats qui étaient voilà, extrêmement
frappants. On avait montré déjà pour le cancer du sein, avec un risque très réduit de récidive, et qu'on n'avait pas encore montré effectivement pour le cancer du côlon.
C'est ça, à tel point que si on devait comparer l'activité physique à un médicament, il serait remboursé par l'assurance maladie avec de tels résultats. Et on a vraiment besoin d'avoir l'expertise des enseignants en activité physique adaptée pour faire ce suivi. Il ne suffit pas de mettre les patients dans les mains de coachs sportifs qui n'auraient pas cette qualification suffisante pour pouvoir vraiment atteindre les intensités nécessaires. Et donc, ça nécessite qu'il y ait la reconnaissance de ces professions dans nos parcours de soins.
On parle à présent du cancer du pancréas. Dont le pronostic, il faut dire, est pas bon. Sa fréquence est en augmentation, notamment chez les moins de 50 ans. C'est 16 000 nouveaux cas par an en France, 12 000 morts. Le taux de survie de 11% à 5 ans, et notamment parce qu'il est diagnostiqué tardivement. Pourquoi il est diagnostiqué tardivement ?
Alors, il y a plusieurs phénomènes. Donc, le premier, c'est qu'il n'y a pas, comme on le disait, de possibilité d'avoir un test de dépistage organisé pour le cancer du pancréas, parce qu'on connaît moins bien les populations à risque plus que d'autres, et aussi parce qu'on n'a pas de modalité aussi facile que le test immunologique fécal ou la coloscopie. La deuxième chose, c'est que donc c'est un cancer qui du coup va être diagnostiqué lorsqu'il occasionne des symptômes. Or, il donne des symptômes en général lorsque la maladie est déjà à un stade avancé, et lorsqu'il en donne, ces symptômes peuvent être trompeurs également.
Alors juste, je vous interromps parce qu'on va écouter Solène qui a eu des symptômes qui l'ont alerté, qui témoignait sur France Inter, on l'écoute.
La première fois, il m'est tombé dessus à 33 ans. Tout allait plutôt bien, jusqu'au jour où j'ai ressenti une grosse fatigue, un petit souci d'ordre digestif, et puis un sentiment que quelque chose ne tournait pas rond. Donc j'ai eu la bonne idée à ce moment-là d'aller consulter tout de suite, et puis la chance d'être diagnostiquée très rapidement. Puisque j'étais sur Paris, j'ai eu la chance d'avoir un rendez-vous avec un médecin généraliste qui tout de suite a vu que quelque chose n'allait pas, qu'il a décroché son téléphone. Et puis, dans la journée, j'avais déjà une échographie, une radio. Dans la journée, j'ai eu le résultat dans la semaine, je crois, et j'ai été opérée 10 jours après.
Bon, là, le parcours parfait, on peut pas dire. La fatigue, quelque chose qui allait pas, c'est pas très spécifique. Il y a rien de plus spécifique que ça.
C'est ça qui peut égarer. Donc, en effet, alors quand il peut y avoir des symptômes type fatigue, amaigrissement, qui sont non spécifiques, comme vous le disiez, des douleurs abdominales qui peuvent donner des irradiations dans le dos et donc être prises à tort pour des douleurs rachidiennes finalement, des problématiques de
modification. On peut traîner comme ça.
Exactement, parce qu'on peut faire des examens de radio de rachis qui servent à rien du coup pour arriver au diagnostic. Des modifications du transit à type de diarrhée. Il faut penser aussi devant l'apparition ou la décompensation d'un diabète ou une phlébite, une embolie pulmonaire sans cause évidente retrouvée. Ça peut être un signe qui est révélateur. Et votre témoignage, en fait, décrit quelque chose qui est une réalité pour les cancers digestifs des sujets jeunes. Votre patiente était extrêmement jeune et c'est vrai qu'avant 50 ans, quand un patient se présente chez son médecin traitant avec des douleurs ou une modification du transit, on va avoir tendance malheureusement souvent à étiqueter ça plutôt bénin fonctionnel, et ça peut aussi induire du retard à la prise en charge.
Il y a quand même, vous disiez pas beaucoup de personnes qu'on pourrait sélectionner pour des examens particuliers, mais il y a quand même des formes génétiques de ce cancer.
Alors, tout à fait. Il y a ce qu'on appelle un dépistage individuel, c'est-à-dire certaines circonstances pour lesquelles on peut mettre en place des examens d'imagerie pour surveiller le pancréas. Alors, c'est soit lorsque l'on détecte sur un examen pour une autre raison certains kystes pancréatiques qui peuvent faire l'objet d'une surveillance, donc qui sont des lésions bénignes, mais que l'on surveille parce qu'elles peuvent, pour certaines, se transformer. Soit, en fait, une histoire familiale. Alors, on peut avoir soit un gène identifié, en effet, de prédisposition, notamment le gène BRCA, qui est aussi impliqué dans les cancers du sein, de l'ovaire, de la prostate, et qui, dans certaines familles, peut également avoir un surrisque de cancer du pancréas.
Ça veut dire qu'éventuellement, quand on a eu plusieurs parents proches qui ont eu des cancers du sein jeunes, il faut pouvoir dépister un peu plus largement ?
Alors, ces personnes font l'objet dans ces cas-là d'un test génétique donc pour regarder s'il y a ce gène BRCA, mais toutes les patientes porteuses d'une mutation de BRCA ne font pas l'objet d'un dépistage pancréatique. On ne le fait que s'il y a un apparenté dans la famille qui a été concerné par un cancer du pancréas. Donc c'est pour ça que c'est vraiment quelque chose qui est très personnalisé et qui relève du conseil d'oncogénétique. Mais il faut savoir que dans la grande majorité des cas, quand on a plusieurs cas de cancer du pancréas dans la famille, on ne retrouve pas de gènes responsables, d'accord, mais ces familles sont quand même surveillées. C'est ce qu'on appelle les cancers du pancréas familiaux. Et donc, on considère qu'on est dans cette situation. À partir du moment où on a deux personnes dans la famille liées au premier degré entre elles, donc père, mère, là, frère, sœur, voilà, qui ont été concernées par un cancer du pancréas, dans ces cas-là, les apparentés de ces patients doivent être surveillés. D'accord.
Alors, les facteurs de risque, bon, c'est comme le cancer colorectal, hein, tabagisme, l'alcool, le surpoids, l'obésité, le manque d'activité physique. Il y a le diabète, qui est un facteur de risque.
Alors, le diabète, c'est une
vu la fréquence, ça va inquiéter les gens.
Alors, c'est une interaction un petit peu complexe. Donc, c'est le diabète de type 2 qui est concerné. En fait, il y a une double relation. C'est-à-dire qu'on sait que le fait d'avoir un diabète de type 2 ancien peut être un facteur de risque de cancer du pancréas. Et raison pour laquelle, si on avait un diabète qui était parfaitement équilibré et qui se décompense un peu sans raison, bah, ça peut amener à faire des examens d'imagerie. Mais il y a aussi le fait que le diabète peut être un signe révélateur du cancer du pancréas. Et donc, dans ces cas-là, c'est plutôt un diabète de courte durée qui était apparu récemment et qui est plus un symptôme inaugural.
Alors, on l'a dit, le nombre de cas augmente chez les hommes et les femmes de moins de 50 ans. Comment on explique cette augmentation ?
Alors, on l'explique pas complètement par les facteurs connus, c'est-à-dire que dans l'augmentation totale du nombre de cas, qui est actuellement de 16 000 chaque année, comme vous le disiez, versus 7 000 dans les années 90.
Oui, franche augmentation.
Voilà. Donc il y a une part qui est liée à l'accroissement et au vieillissement de la population, parce que l'âge moyen au diagnostic de cancer du pancréas, ça reste autour de 70 ans. Mais il y a donc également, en effet, la population jeune qui est davantage concernée, et donc là, du coup, ça ne s'explique pas par le vieillissement, de fait. Les facteurs modifiables dont on a parlé, notamment le tabac, expliquerait à peu près 20% des cancers du pancréas, mais on voit des patients jeunes qui sont non-fumeurs, voilà, et qui développent ces cancers. Et la problématique qui se pose aussi, c'est de se dire que les facteurs de risque classiques que l'on connaît, ils entraînent le développement de cancer vers l'âge de 60-70 ans. Il faut avoir une exposition longue, en fait. Oui. Donc, quand on développe un cancer à 30 ou à 40 ans.
C'est qu'on a été exposé beaucoup plus tôt.
Exactement. Donc, c'est des choses qui relèvent plus de notre environnement dans l'adolescence, probablement.
Et ou peut-être in utero?
Alors, ça fait partie des hypothèses pour les formes les plus jeunes de cancer. On est encore dans un domaine où la recherche, c'est un peu un angle mort de ce point de vue-là, parce qu'on a des cohortes d'adultes qui ont été suivis pour développer des cancers, mais plutôt vers cet âge de 60-70 ans. Et donc, maintenant, on doit travailler de concert avec les cohortes pédiatrique, finalement, de surveillance pour pouvoir voir s'il y a des facteurs qui peuvent être en ligne de compte. Il y a des données qui avaient émergé sur une association potentielle avec les pesticides, avec le cadmium, qui doivent être creusées pour pouvoir mieux l'établir.
Je suis désolée, il nous reste même pas une minute pour parler recherche. Si. Ça va vers quoi, la recherche du cancer du pancréas ?
Alors, on vit une période avec beaucoup de choses qui se profilent pour traiter ce cancer. C'est un cancer pour lequel le seul traitement que l'on avait au stade avancé jusque-là était la chimiothérapie. Il y a des résultats très prometteurs avec de nouvelles formes de thérapie ciblées, notamment qui ciblent le gène KRAS, qui est muté dans 90% des cas de cancer du pancréas, dont on devrait avoir des résultats de grosses études cette année. Et il y a des stratégies un petit peu nouvelles d'immunothérapie dont on attend les résultats, sachant que l'immunothérapie classique jusque-là ne fonctionne pas dans le cancer du pancréas.
D'accord, il y a quand même beaucoup de pistes de recherche. Oui. Merci beaucoup d'être venu
vous
parler de tout cela et n'oubliez pas le test de dépistage au moins du cancer colorectal, il existe. Merci à Anne-Claire Bazin pour la préparation de cette émission, à Swad Boukorsa qui l'a réalisée et mise en onde. France Culture.